RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Chaque année en France, 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Samedi, partout en France auront lieu des marches organisées par le collectif Nous Toutes pour dire stop aux violences sexuelles et sexistes envers les femmes. Et c'est l'occasion de s'interroger plus largement ce matin dans Je pense donc j'agis sur le lien entre ces violences et le patriarcat. Vous allez d'ailleurs entendre dans un instant une historienne à l'origine d'une somme sur l'histoire mondiale des féminicides. On en compte 89 depuis le début de l'année et une universitaire qui depuis longtemps interroge la place des femmes dans l'Église catholique. Dans la seconde partie de l'émission, parce que cette lutte s'intensifie et c'est tant mieux, on vous présentera des associations qui agissent pour écouter, accueillir et accompagner ces femmes en détresse. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Que vous évoque cette notion de patriarcat? Est-ce qu'on peut faire un lien entre les violences faites aux femmes et le patriarcat? Et puis si vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation, venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec comme tous les jeudis Stéphanie Gallet, rédactrice en chef culture et société. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, la question qui animait les journalistes dans les médias comme RCF, c'était: faut-il traiter les faits divers? Un homme qui tuait sa femme, c'était un fait divers, un drame passionnel. Ça n'avait pas, pensions-nous, de profondeur sociologique. Les hommes violents frappaient et parfois même tuaient leurs femmes, c'était de toute éternité. Circuler donc, y a rien à voir. Oui, mais justement, si partout sur Terre et depuis si longtemps, des hommes ont tué des femmes, était-ce dans la nature du mal, avec un accent circonflexe? Au XXIe siècle, difficile de croire ça. Donc il nous faut chercher ailleurs, et peut-être plus précisément dans nos organisations, dans nos imaginaires, et se demander si au-delà de la responsabilité d'individus brutaux, il n'y a pas matière à s'interroger sur le côté systémique de ces violences, mais aussi sur la manière dont de génération en génération, les hommes et les femmes se sont habitués à ces violences jusqu'à ne plus les voir. Et pour penser ces violences, il y a un mot qu'il nous faudra décrypter, vous l'avez prononcé Melchior, c'est celui de patriarcat. La bonne nouvelle, c'est que les choses sont en train de changer. La jeune génération ne tolère plus la moindre expression de cette domination masculine. Des hommes politiques, certains, pas tous, ont dû mettre pour quelque temps leur carrière entre parenthèses pour des soupçons de violence envers des femmes. Des ecclésiastiques, certains, pas tous, avouent publiquement ce qui est parfois bien plus grave qu'un écart de conduite. Les temps changent et des gestes, des attitudes qui dans l'ancien monde auraient été considérés comme anodins ne sont aujourd'hui plus supportables. Et c'est une bonne chose, mais nous ne sommes qu'au balbutiement d'un mouvement qui aspire à faire vivre vraiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, dans Je pense donc j'agis, on essaie de comprendre d'où viennent ces violences envers les femmes et comment construire une société plus juste pour chacun, quel que soit son genre.
On en discute avec nos deux invités dans cette première partie, Stéphanie.
Oui, Christelle Tarot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous êtes féministe, vous êtes une universitaire spécialiste de l'histoire des femmes, vous avez de nombreux ouvrages à votre actif, et on vous a invité parce que vous venez de publier, je dois confesser, je ne l'ai pas lu en entier, hein, une somme, c'est Melchior à prononcer le mot, 1000 pages, hein, une histoire mondiale, non pas des femmes, on voudrait, hein, mais c'est une histoire mondiale des féminicides. Le mot est au pluriel. C'est publié aux éditions La Découverte. Alors, vous n'avez pas écrit toute seule, hein, vous avez dirigé. Il y a de nombreuses historiennes et femmes qui ont travaillé avec vous. C'est un ouvrage glaçant, puisque à chaque page, on parle de la haine, du mépris et du meurtre des femmes. Féminicide, est-ce que, très rapidement, on pourrait faire une émission entière là-dessus, mais juste, qu'est-ce que c'est?
Alors non, c'est compliqué en réalité, ouais. Précisément parce qu'on emploie en fait en France le mot féminicide pour désigner ce qui en fait au départ est un fémicide. Et c'est très important en réalité parce que le fémicide, c'est précisément le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, en général par un partenaire intime. Parce qu'en fait, c'est très réducteur parce que du coup, ça permet d'éviter de parler des hommes de la famille, par exemple, qui tuent un certain nombre de femmes.
Les frères ou les pères.
Les frères, les pères, les cousins, etc. Mais gardons cette définition réductionniste pour le fémicide. Le fémicide, c'est tout à fait autre chose. C'est né dans un autre contexte. C'est né au début des années 90.
Là, vous parlez du féminicide.
Du féminicide. féminicide. Mmh. C'est né au début des années 90, en fait, en particulier au Mexique, sur la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique, où se trouvent les usines de sous-traitance de l'économie capitaliste de la région, disons, dans lequel travaillent beaucoup de jeunes femmes qui sont pauvres, qui sont souvent issues des mondes ruraux, parfois aussi des communautés natives, et qui commencent à disparaître de manière assez significative. Et on les retrouve pas, les familles s'inquiètent, elles interpellent la police, qui ne fait rien, évidemment, et donc elles commencent à chercher elles-mêmes, et on exhume des corps, beaucoup de fosses communes en particulier, mais aussi on en retrouve dans des décharges, dans des lieux isolés, les femmes ont été jetées comme des déchets, et elles sont non seulement tuées, mais surtuées. Qu'est-ce que c'est le surmeurtre? C'est le fait qu'on ne se contente pas d'égorger ou d'étrangler une femme, mais on va la violer post ou pré-mortem, on va la mutiler post ou pré-mortem, la démembrer post ou pré-mortem. Bref, on lui fait subir toute une série de profanations. Et face à ce crime...
C'est une forme de négation?
C'est une forme d'anéantissement, ça c'est clair. Un anéantissement total. Mais face à ça, en fait, face au crime inouï qui n'a aucun sens et qui incarne vraiment la haine des femmes, incontestablement, un certain nombre de militantes et de chercheuses vont forger un nouveau concept, qui est le concept de féminicide, qui dit autre chose que le fémicide, puisqu'il dit le crime de masse, le crime d'État, puisqu'il y a collusion évidemment entre les institutions de l'État et les meurtriers, que ces meurtriers soient des individus ou des collectifs, et bien sûr, un crime à tendance génocidaire, parce que il ne s'agit pas seulement de tuer un individu, mais d'éradiquer les femmes en tant que peuple, en tant qu'identité et en tant qu'univers.
Donc Christelle Tarot, vous nous dites qu'il y a deux réalités qui n'en sont qu'une. Le fémicide, que nous en France on appelle féminicide, c'est-à-dire des femmes qui sont tuées par des conjoints ou des ex-conjoints dans le cadre... de la,
intime,
la famille, voilà.
Oui.
Et puis, il y a ces crimes envers les femmes parce qu'elles sont femmes qu'on retrouve partout sur la planète et...
qui sont des crimes de masse.
Et de
c'est
tout
très
temps,
important.
C'est ce qu'on voit dans votre livre.
Absolument.
Vous allez nous aider à comprendre dans cette émission comment il y a un lien entre les violences faites aux femmes et ces crimes atroces. Nous en reviendrons. Merci beaucoup, Christelle Tarot, d'être avec nous. Féminicide, une histoire mondiale, c'est aux éditions La Découverte. Anne-Marie Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs vous connaissent bien, vous intervenez régulièrement sur notre antenne. Vous êtes universitaire, docteur en sciences des religions. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question des femmes dans l'Église catholique et dans le christianisme plus généralement. Vous connaissez particulièrement la Bible, les évangiles. Je veux citer deux livres, mais il y en a d'autres. Hein. L'Église, des hommes avec des femmes. Et puis un autre qui s'appelle L'Église et le féminisme qui sont publiés chez...
Et le féminin.
Et le féminin
l'Église
qui sont publiés chez...
Le premier au CERF, le second chez Salvatore.
Voilà. Anne-Marie Pelletier, je vais vous poser une question différente de celle que j'ai posée à Christelle Tarot, mais je voudrais vous demander comment vous allez en ce moment, parce que la période est quand même particulièrement difficile pour les catholiques. Vous êtes une femme catholique.
Je vais pas très bien. Je vais, comme tout catholique en France aujourd'hui, accablée par ces révélations, je dirais presque quotidiennes, qui s'accumulent. On a l'impression d'un cloaque et d'un trou sans fond. Et voilà, donc il s'agit de faire face à tout ça. J'ai envie de dire surtout en évitant des esquives un peu faciles. Hein. Voilà, je ne supporte pas bien ces justifications. Voilà, mais tout ça, oui, c'est tragique, mais c'est un kairos, comme nous disons dans notre langage, hein, de purification. Ouais. Non, je pense que c'est vrai que je vis avec Bible en main et j'ai l'impression que la première chose qu'il faut que nous consentions à vivre, c'est que c'est... Oui, en termes bibliques, c'est une période de jugement. C'est-à-dire que, voilà, les choses sortent, les choses se manifestent. Et moi, même si c'est violent, mais j'aime bien dire, enfin, ne nous soustrayons pas à ces réalités et pour parler le langage scripturaire, ne nous soustrayons pas à la colère de Dieu.
À la colère de Dieu et à nos responsabilités.
Oui.
C'est entendu. Merci beaucoup Anne-Marie Pelletier d'être avec nous ce matin. Voilà, Melchior, deux invités aujourd'hui, Christelle Tarot et Anne-Marie Pelletier.
Et vos témoignages au 04 72 38 20 23 pour réagir et témoigner si vous êtes concerné de près ou de loin par une situation de violence. Vous pouvez également nous laisser vos témoignages par mail à direct@rcf.fr. Stéphanie, on a prononcé tous les deux ce mot de patriarcat. Je pense qu'on peut commencer par le définir peut-être.
Oui, alors je vais juste rappeler qu'il est 9h12 et que nous sommes ensemble jusqu'à 9h58. Donc ça va passer très vite. Donc je vais vous demander à toutes les deux d'être, je sais que c'est frustrant, mais d'être brève. Donc voilà, comment définir le patriarcat? Qu'est-ce que c'est? Je me tourne vers vous, Christelle Tarot.
Bah, le patriarcat, très simplement, c'est un système d'écrasement des femmes où les hommes ont accaparé depuis des temps très anciens. En fait, on sait maintenant par des travaux très documentés, très articulés, très référencés, aussi bien en archéologie qu'en anthropologie féministe, par exemple. Et les historiennes travaillent aussi là-dessus, que probablement ce système remonte au néolithique, au moins au néolithique, c'est-à-dire à la préhistoire, et que ce système d'accaparement de tous les pouvoirs qui repose sur des régimes de force. Et c'est très important de le comprendre, parce que ça veut dire que l'humanité, dès son origine, a fait un choix de force pour constituer les sociétés humaines. Et que ce choix de force, nous le payons au prix lourd aujourd'hui, puisque il a conduit, avec bien des étapes, à ravager non seulement les relations entre les êtres humains, qui sont globalement assez épouvantables, en particulier les relations entre les femmes et les hommes, mais aussi à ravager la planète. Ce patriarcat, il commence d'abord par instaurer des régimes qu'on appelle de basse intensité, qui reposent sur des matrices duales, le féminin d'un côté, le masculin de l'autre, les deux principes vivant dans une certaine complémentarité. Je dis complémentarité et pas égalité, bien sûr, parce que nous ne sommes pas dans des sociétés égalitaires, mais où les femmes ont quand même un certain nombre de droits et où ces droits sont respectés à partir du moment où elles ne dérogent pas à la féminité qui a été en réalité mise en place par les hommes au sein des régimes de force. Et puis, dans un deuxième temps, c'est patriarcat de basse intensité qu'on a retrouvé sur l'ensemble de la planète, très tôt, en réalité, vont se complexifier et produire des patriarcats de haute intensité qui sont des patriarcats extrêmement prédateurs et agressifs qui font, en plus des dégâts considérables entre les femmes et les hommes, les deux moitiés de l'humanité, des dégâts évidemment essentiels sur d'autres peuples. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des concurrences entre patriarcats et que le patriarcat qui a le plus de force, eh bien, s'impose à tous les autres. Et dans ce mouvement, qui est un mouvement important, qu'on voit s'exercer à de nombreux moments de l'histoire, prenons par exemple l'Empire romain, prenons l'Empire ottoman, enfin, il y en a évidemment des tonnes, on voit que la religion est tout à fait centrale, que l'un des pouvoirs essentiels qui est utilisé par les hommes, c'est précisément le pouvoir religieux qu'ils ont capté dès l'origine, alors que nous savons qu'à la préhistoire, il y avait des cultes de grandes déesses, par exemple, de déesses primordiales, etc., et qu'au fur et à mesure, les femmes ont été satellisées. Et dans ce processus, c'est très important, la religion est tout à fait centrale, puisque le spirituel est une activité essentielle de l'être humain, et que bien évidemment, le fait d'en avoir exclu les femmes participe totalement de ces régimes patriarcaux.
Anne-Marie Pelletier, est-ce que vous reconnaissez dans la description du patriarcat que vient de nous faire Christelle Tarot?
Oui, très certainement. Bon, puisque vous m'interrogez en qualité de chrétienne, il est évident que les écritures de référence, le corpus biblique, participent de cet ordre patriarcal. Je me reconnais et en me déplaçant sur mon terrain propre, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, bien entendu, je suis plus que sensible à tout ce qui se manifeste aujourd'hui dans l'Église catholique, hein, en particulier. Nous savons qu'un processus synodal a été engagé et au terme de ce qui a été recueilli d'avis et de souhaits, d'appels, etc. La question des femmes, comme on dit, moi j'aime pas trop d'ailleurs cette expression, mais enfin la question des femmes revient de façon très insistante et très systématique. Hein. Donc à l'évidence, c'est un des problèmes et c'est un défi du monde catholique aujourd'hui. Alors, la seconde chose que j'ai envie de dire, c'est que, oui, certes, l'histoire du christianisme est touchée par ce patriarcat, et je dirais par construction institutionnelle, d'une certaine manière, dans l'Église catholique. Mais j'ai envie de dire aussi que...
On pense à ces images quand on voit des célébrations au Vatican où il n'y a que des
bien
hommes.
Bien entendu, mais pas seulement au Vatican. Oui. Voilà, il suffit de pousser la porte d'une église aujourd'hui.
Mais il n'y a souvent que des femmes. sur les bancs des...
Oui, bien entendu. Oui, les espaces sont séparés. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que je crois que dans cette tradition, dans la tradition chrétienne, il y a un certain nombre de ressources, à la fois pour faire le procès de ce patriarcat et pour en sortir. Et c'est là que... C'est vrai que je suis absolument affolée, effondrée de voir ce qui se passe en Afghanistan, par exemple, en ce moment. C'est l'actualité qui rejoint chacun. J'ai envie de dire que, voilà, dans l'Église catholique, c'est pas l'Afghanistan. Voilà.
Il y a des ressources. Je voudrais, parce que on parle de ce patriarcat, et en même temps, nous vivons en France, nous ne vivons pas en Afghanistan. L'égalité homme-femme, elle est inscrite dans la loi. Et pourtant, vous pensez que le patriarcat est encore présent ?
Ah ben, vous plaisantez.
Christelle Tarot.
C'est une plaisanterie.
Non, je vous pose une question.
Oui, bien sûr que le patriarcat est extrêmement présent. Et je dirais même d'autant plus qu'il est en partie occulté, en partie banalisé et en partie non dénoncé. Du simple fait, en réalité, que nos pays sont construits, à mon sens, sur une mythologie. Qui est précisément celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il suffit en fait de regarder n'importe quel domaine de la vie d'une femme aujourd'hui en France pour se rendre compte que, évidemment, il n'y a aucune égalité. Bien sûr, l'égalité est inscrite dans la loi. Et d'ailleurs, nous avons fait de très nombreuses lois d'égalité. Mais pour qu'une loi d'égalité soit véritablement intégrée dans une société, il faut qu'elle soit incorporée par elle. Il faut qu'il y ait un changement fondamental des mentalités. Et nous n'en sommes évidemment pas du tout là. Non seulement nous n'en sommes pas là en France, bien évidemment, je pourrais en donner des tonnes d'exemples. Par exemple, je donne un exemple très concret. Il y a une semaine, j'étais en train de présenter le livre dans une librairie et à la fin de la présentation, une jeune fille vient me dire qu'elle, avec beaucoup de difficultés, etc., qu'elle vient de porter plainte pour viol dans un commissariat. Première question posée par le policier à cette jeune fille, comment étais-tu habillée ? Comment étais-tu habillée ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en réalité, la coupable, c'est elle. C'est elle. Et ça, c'est un signe extrêmement mauvais envoyé aux femmes qui ont le courage maintenant de dénoncer ces violences et d'aller porter plainte. C'est quand elles vont porter plainte dans un commissariat, elles se retrouvent avec ce genre de remarques. On peut comprendre évidemment que c'est un problème très important. Et ce que je viens de dire là peut être multiplié dans des milliards d'espaces différents. Et donc je crois que c'est vraiment très important. Vous parliez d'affronter la réalité tout à l'heure. Je crois que c'est très important de comprendre que les sociétés sont différentes. Certes, nous ne sommes pas en Afghanistan puisque nous sommes en France, mais nous avons beaucoup de problèmes déjà à régler ici et parfois il y a des discours écrans qui consistent à dire c'est pire ailleurs. Certainement c'est pire ailleurs, mais le problème c'est qu'il faut que ça soit mieux ici. Et pour que ce soit mieux ici, il faut qu'on affronte tout ça, et notamment le continuum féminicidaire que je décline dans le livre.
Voilà. Alors justement, j'aimerais qu'on explique, peut-être qu'Anne-Marie Pelletier, vous pouvez commencer. Quel est le lien entre cette organisation patriarcale qui fait que les hommes ont les premières places, ont le pouvoir, ont la visibilité, et ces violences ? Est-ce qu'il y a un lien ? Comment on explique ce lien ?
À partir du moment où tout le pouvoir est concentré entre les mains des hommes, il dispose des femmes.
Il dispose des femmes, c'est ça ?
Oui. Et en particulier, il dispose du corps des femmes. Et là, je reviens à l'Église catholique, ça me paraît tout à fait patent. Le contrôle des hommes sur le corps des femmes, ça me semble être une donnée de base de la vie de l'humanité. Et nous en avons quand même un exemple patent dans le monde catholique et dans une certaine morale sexuelle, et bien sûr.
Donc à partir du moment où on dispose du corps des femmes, on peut en jouir et en abuser comme on veut, c'est ça ?
Évidemment.
Et là, vous êtes en train de nous dire, Anne-Marie Pelletier, que l'Église catholique, par son histoire, par son organisation, par sa théologie peut-être, a une responsabilité dans ces violences ?
Dans la mesure où l'Église catholique a tout de même régné très largement sur la culture et sur la société, bien entendu, et avec des justifications scripturaires, bien sûr, et fondamentalement avec une construction institutionnelle où, effectivement, le pouvoir, l'autorité, la parole, tout ça revient à des hommes, à une, une certaine caste d'hommes, si j'ose dire, qui est la caste sacerdotale, bien entendu.
Christelle Tarot, j'allais plus loin avec vous. Vous avez parlé du continuum féminicidaire.
C'est très dur à dire, voilà. Mais c'est très important de le dire tout le temps.
C'est-à-dire que entre la simple gifle, dont on a parlé il y a quelques semaines dans une dispute conjugale, et puis le meurtre d'une femme dans un couple, et puis même le meurtre en masse dont vous nous avez parlé à la frontière mexicaine, il y a un lien? C'est pas un peu gros, ça?
Non, absolument pas. C'est pas gros du tout. En fait, le continuum féminicidaire, c'est une chose très simple, même si c'est un mot un peu verbiage sociologique, disons. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que de la naissance à la mort, les femmes sont impactées par toute une série de violences qui peuvent être extrêmement brutales. Évidemment, ce qui est le plus brutal, de manière définitive, c'est le meurtre ou l'assassinat, bien évidemment, qui est la partie la plus immergée de l'iceberg féminicidaire. Mais ça va jusqu'aux violences les plus symboliques et même épistémiques. Pour moi, la néantisation des femmes dans l'histoire de leur pays et dans l'histoire de l'humanité, c'est une violence féminicidaire. Et donc le spectre est extrêmement large, évidemment, et ça touche aussi toutes les grandes institutions. Donc ça touche l'école, le travail, la religion, l'art, etc., etc. Mais le continuum féminicidaire permet aussi de parler des femmes qui ne naissent pas. Parce que la haine des femmes est si prégnante dans nos nombreux régimes patriarcaux que ça conduit en fait à mettre en place des politiques visant à les éradiquer avant même qu'elles naissent. C'est ce qu'on appelle les féticides ciblés en fonction du genre. Et ça conduit par exemple sur le continent asiatique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à une saignée démographique de 200 millions de filles qui ne sont pas nées ou qui sont mortes à la naissance, parce qu'il y a aussi des politiques d'infanticide qui ont frappé par exemple des très grands pays comme l'Inde ou la Chine. Et là, je parle évidemment d'avortement forcé. Je ne parle évidemment pas du droit inaliénable, et je dis bien inaliénable, des femmes à disposer de leur propre corps en pratiquant, si elles le souhaitent, quand elles le souhaitent, évidemment, une interruption volontaire de grossesse. Et là, on voit aussi qu'il y a un enjeu extrêmement fort, y compris dans les pays dits civilisé entre guillemets,
on pense aux États-Unis,
dit démocratique, puisque on voit que même dans un pays comme les États-Unis, qui est présenté vraiment comme un pays extrêmement développé du point de vue de l'égalité des hommes et des femmes, je crois que là on est en plein dans la mythologie. Par ailleurs, on a eu cette révocation du droit fédéral à l'interruption volontaire de grossesse, qui est absolument dramatique, en particulier pour les femmes les plus fragiles et les plus précaires. Mmh. Évidemment, comme toujours.
Anne-Marie Pelletier. Là, on écoute Christelle Tarot et j'ai la même sensation d'oppression, enfin d'étouffement quand je l'écoute que j'avais quand je parcourais son livre. C'est terrifiant quand on met tout ça en perspective.
Bien sûr. La condition des femmes est globalement dans le monde est terrifiante. Alors moi, je n'ai pas l'expérience historienne de Christelle Tarot, mais je dirais que par capillarité, à travers tout ce qui nous arrive d'informations sur l'actualité, bien entendu.
Ce qui est terrifiant, c'est quand on fait des liens, etc.
Christelle ne sera probablement pas tout à fait d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même dans le concret de la vie des sociétés, il y a quand même des gradations. C'est-à-dire que quand un pays consent à l'éducation des femmes, il se passe quelque chose, cet ordre patriarcal commence à bouger, et la condition des femmes s'améliore aussi. Enfin, la condition de la société et la condition des femmes est intimement liés, et il y a des choses quand même qui se font. Alors, j'entends bien que toute la manière dont un pays comme le nôtre aura pu légiférer difficilement, lentement et laborieusement sur l'égalité homme-femme n'empêche pas les féminicides dont on... il me semble quand même qu'on est dans
Faut pas mettre tout dans le même sac.
Il me semble qu'on est quand même là sur un chemin de progrès malgré tout. Alors, progrès aussi dans le fait que aujourd'hui nous parlons de ces questions-là et je dirais que le monde entier est capable de s'indigner, et ça je pense que c'est un progrès phénoménal. À partir de là, comment fait-on pour s'extraire? Nous sommes dans un pays, me semble-t-il, bon, pardonnez-moi de faire des poids et des mesures d'une certaine manière, mais quand même moins patriarcal hein, qu'il l'a été il y a quelques décennies et qu'il l'est ailleurs. Et cependant, c'est ça pour moi la grande énigme. Hein, nous n'arrivons pas à sortir hein, de cette inégalité meurtrière.
Je vous lis un message de Patrick qu'on vient de recevoir par mail à direct@rcf.fr. Patrick qui nous dit « On entend dire que si on n'était pas dans une société patriarcale, il y aurait moins ou autant de violences faites aux hommes qu'aux femmes. Et je crois qu'on oublie qu'il y a une stature physique de l'homme par rapport à la femme. Lorsqu'un homme frappe une femme, il peut lourdement la blesser. C'est beaucoup moins le cas quand une femme parvient à frapper un homme, à moins qu'elle pratique quelques arts martiaux. » Christelle Tarot, qu'est-ce que vous en pensez du message de Patrick qui insiste sur la stature physique de l'homme par rapport à la femme?
Bah ça, c'est une très ancienne question, la question du dimorphisme sexuel. C'est une question sur laquelle travaillent notamment les préhistoriennes, parce que se pose la question de savoir si effectivement, dans l'humanité première, dans celle qui remonte à des millénaires, ce dimorphisme était si accentué. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce qu'on n'a pas du tout le temps. Précisément, bien sûr, il y a des différences physiques évidentes entre les hommes et les femmes de manière globale, mais en réalité, il y en a aussi entre les hommes eux-mêmes et entre les femmes elles-mêmes. Et puis, on constate dans nos sociétés précisément aujourd'hui que dans les plus jeunes générations, que ce dimorphisme se réduit pour une raison très simple, c'est qu'on mange de la même manière, on a plus d'hygiène, les sociétés sont plus médicalisées, etc. Donc ça se réduit. Mais il n'en reste pas moins effectivement que les hommes ont physiquement une force souvent plus importante que les femmes. Ça doit leur donner un devoir justement de l'utiliser de manière plus intelligente que en frappant leur compagne ou leur femme éventuellement.
Oui, bien sûr, dimorphisme probablement, mais surtout la construction, je crois, d'une image de la virilité depuis des lustres et intériorisée par les hommes et peut-être aussi par les femmes, par définition, ça circule entre les deux, et une image de la virilité qui est celle de l'homme puissant, viril, muscle. Et ça, ce qui m'affole un petit peu, c'est que dans le monde chrétien, aujourd'hui, cette image de la virilité tend à faire retour très puissamment dans la mesure où les modèles traditionnels se sont effondrés, où les hommes souvent sont un petit peu perdus. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui? Et vous avez toute une littérature qui fait floresse et qui rappelle aux hommes, les grands modèles traditionnels de la virilité, quitte d'ailleurs à aller puiser des exemples et des appuis dans les Écritures, ce qui est quand même un vrai problème.
Mais si vous me permettez, je pense que on devrait éduquer dans nos pays respectifs, et en particulier en France, les hommes et les femmes à être d'abord des êtres humains.
On va revenir sur la question de l'éducation.
Alors on va faire une petite pause dont je pense, donc j'agis. Dans un instant, on accueillera Adrienne qui viendra témoigner à l'antenne. Vous pouvez continuer de nous appeler au 04 72 38 20 23, envoyer des mails à direct@rcf.fr ou rejoindre le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Allez, on va écouter une chanson de Clara Luciani tout de suite qui évoque dans cette chanson les violences faites aux femmes. Voici Cœur, et en plus c'est le tout nouveau single de son dernier album. Clara Luciani sur RCF.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Good.
Clara Luciani sur RCF. C'était Cœur.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Avec l'historienne Christelle Tarot et l'universitaire Anne-Marie Pelletier qui sont avec nous dans cette émission, on parle des violences faites aux femmes à quelques jours de cette marche qui va avoir lieu dans toute la France d'ailleurs, organisée par le collectif Nous Toutes. Vous avez la parole au 04 72 38 20 23. On accueille Adrienne. Bonjour Adrienne.
Bonjour.
Bonjour et on vous écoute.
Donc moi je voulais réagir donc parce que j'ai été victime de violences psychologiques et puis physiques. Et j'ai des enfants, j'en ai deux. Quand j'ai enfin pris la décision de m'en aller, j'allais mourir si je partais pas. Donc voilà. Mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années avant de partir. Et moi, je voulais dire que les féminicides, c'est vrai, mais ça touche les enfants aussi. Moi, mes deux enfants, le premier est parti le plus tôt possible. J'ai eu la chance, il était intelligent. Et à 17 ans, il avait le bac, le premier. Le deuxième a été déscolarisé. Et donc, ça touche les mamans, mais ça touche les enfants. Et quelque part, il devrait y avoir un suivi des enfants derrière, mais obligatoire. Mmh. Voilà. Parce qu'après, moi, quand je vois vivre mon aîné qui est grand maintenant, avec sa femme et ses enfants, eh ben, j'ai toujours la peur qu'il y ait des choses qui ressortent. Voilà. Ensuite, quand moi j'ai voulu aller me plaindre à la police, eh ben, dans mon village, ils m'ont dit « Ah, nous, on s'occupe pas de ça, ça ne regarde pas. » Voilà. Sauf que le commissariat ou la gendarmerie la plus proche était à 20 km. Donc vous imaginez bien que quand vous avez un mari jaloux, un mari qui vous frappe, eh ben, c'est difficile de dire « Ah, ben, les courses, elles ont duré bien plus longtemps. » Donc je pense que ça, alors on fait ça pour les médecins, on peut rentrer dans une cabine et on peut parler à un médecin. Ben, je pense que dans les commissariats ou les gendarmeries, ça serait si simple d'avoir une cabine, on rentre dedans et en face on a quelqu'un de compétent. Voilà. Ensuite, il existe des associations, on n'en parle pas assez, moi je les ai connues qu'après, qui s'appellent le CIDIF. Et quand j'ai été quand je me suis échappée, que je suis partie dans un autre département. Eh ben le CIDIF, ils m'ont conseillé, ils m'ont aidé. Et j'avais plus d'ordinateur, évidemment, quand vous partez avec rien. Et ils m'ont aidé à faire des papiers, à changer de nom, à faire... voilà. Et on n'en parle pas assez, mais c'est une association formidable.
Adrienne, on va en parler, promis, dans la seconde partie de Je pense, donc j'agis. On va vraiment mettre en avant des associations comme ça, des organismes qui vous écoutent et qui permettent vraiment un accueil, un accompagnement. Merci beaucoup, Adrienne, vraiment d'être venue témoigner dans Je pense, donc j'agis. Christelle Tarot, j'aimerais revenir sur ce que disait Adrienne à propos des enfants, sur les violences qui, d'une manière peut-être assez indirecte aussi, touchent aussi les enfants.
Ben évidemment, le patriarcat, si on revient à ça, construit des crimes de propriétaires. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit pas d'amour. C'est vraiment très important de le comprendre. D'ailleurs, Adrienne nous dit :« Je me suis échappée. Ouais. » C'est un terme très fort en réalité. Évidemment que lorsque vous êtes un propriétaire, vous êtes un propriétaire sur votre épouse, mais vous êtes aussi un propriétaire sur vos enfants. Ça participe de la dynamique. Et bien sûr, je dois dire que j'ai rencontré à de nombreuses reprises, aussi bien d'un point de vue historique que contemporain, des situations équivalentes à celles qui viennent de nous être racontées. Et je suis très émue et très affectée parce que j'entends toujours.
On s'habitue évidemment. Pas.
Non seulement on ne s'habitue pas, mais on ne doit absolument pas s'habituer. Évidemment. Donc il y a énormément de travail à faire. Les associations, elles sont très présentes dans le livre. Il n'y a pas que les chercheuses. Il y a bien sûr les activistes, les militantes qui font un travail formidable, qui sont au quotidien, qui sont les mains dans le cambouis et qui essaient avec peu de moyens précisément de solutionner des problèmes dramatiques comme le problème qui vient de nous être narré. Évidemment.
Anne-Marie Pelletier, Adrienne, elle nous dit... je me suis échappée. Elle nous dit aussi, j'allais mourir si je ne partais pas. Ce sont des souffrances que l'Église a longtemps refusé de voir, la souffrance au sein des couples.
Bien sûr, bien sûr. L'Église parlant par la bouche d'hommes, évidemment, est a priori peu prompte à dire les choses, à reconnaître ces choses-là. Peut-être d'autant plus que un certain discours théologique vit sur une fiction hein, de la relation homme-femme. Et évidemment, tout ça en ajoute, bien sûr.
Étienne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour.
C'est à vous.
Voilà, merci. Je voulais juste réagir un peu à l'émission et à ce que disent les deux invités, parce que je suis un peu étonné du côté unilatéral du thème du patriarcat sans débat contradictoire. Alors, je crois être le premier homme qui s'exprime là dans cette émission. Et j'aurais trouvé ça intéressant de mettre en parallèle le patriarcat avec le matriarcat, qui est aussi une réalité. À titre personnel, je fais partie d'une famille, c'est pour ça que ça me touche, hein, qui est plutôt une culture de matriarcat où la violence faite aux hommes existe aussi, elle est plus psychologique, même si elle peut être aussi physique, et c'est tout autant destructeur pour l'homme, qui perd confiance en lui, qui est dévalorisé, et qui souvent exerce une force différente que celle de la violence, mais qui est une force de retrait sur soi, de repli, et parfois, vous savez, de silence, voilà, qui s'exprime aussi dans une fidélité. Donc moi, c'est un peu le témoignage que je voulais donner, et je suis toujours gêné par ces généralisations qui en fait instaurent un peu une lutte, une sorte de lutte des classes, de lutte des sexes, qui me gêne beaucoup, et j'aurais aimé entendre que la femme aussi a son rôle à jouer. Si on prend l'exemple du patriarcat, dans ce qu'elle peut apporter comme douceur, comme tendresse, pour peut-être calmer une agressivité naturelle de l'homme, qui est peut-être à l'origine de ce qu'on appelle le patriarcat. Mais j'ai l'impression qu'on fait un peu fi de la nature humaine, et qui expliquerait, si vous voulez, ces organisations de société, qui me semble quand même une vision plus réaliste et un peu moins idéologique.
Merci beaucoup Étienne, et tous les hommes sont les bienvenus bien sûr dans Je pense donc j'agis au 04 72 38 20 23. Anne-Marie Pelletier, on ne parle pas assez du matriarcat comme nous l'a dit Étienne d'après vous.
Oui, alors bon, cette question du matriarcat, moi je n'ai pas trop envie d'embrayer là-dessus, parce que c'est une réalité très problématique. Je demande à voir où ça a existé, où ça existe.
En fait, la réalité que vit Étienne n'est pas une réalité
oui.
généralisable dans l'histoire
voilà,
et dans l'espace, c'est ça
qui me paraît important, et merci pour cette prise de parole, parce que... par définition, nous sommes au centre de l'identité de l'être humain et de nos relations sexuées. Et les choses sont éminemment complexes. Hein. Alors, évidemment, la provocation de la violence fait que on peut être tenté d'avoir un discours unilatéral et de ne pas entendre les hommes. Et je sais aussi d'expérience, hein, parce que j'en ai été témoin, que des femmes peuvent être persécutrices d'hommes. Alors, on est bien d'accord, statistiquement, c'est
échelle,
un film.
Voilà.
Mais ça veut dire que cette relation homme-femme, qui est la relation majeure où se joue l'expérience de l'altérité, est par définition complexe et toujours à négocier. Hein. Donc, c'est vrai que c'est important de se rappeler que les hommes ne sont pas simplement des monstres de pouvoir. C'est idiot de le dire. Hein. L'un des livres que j'ai publié s'appelle « Des femmes avec des hommes » et je tiens beaucoup à ce « avec ». Alors, nous sommes dans un combat contre des violences majeures, mais l'objectif,
c'est de combattre ensemble.
C'est à terme de se retrouver ensemble et donc de parvenir à construire positivement cette relation et pas simplement d'inverser des pouvoirs. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je sens les choses.
Christelle Tarot, le matriarcat à l'échelle de l'histoire, c'est une utopie ?
Très honnêtement, dans les années 70, les premières grandes chercheuses féministes, par exemple, qu'on ne peut pas taxer de ne pas l'avoir cherché, hein, précisément, ont beaucoup cherché des sociétés matriarcales, n'en ont trouvé quasiment...
Qui aurait pu être un exemple ?
Aucune. Ce qu'on a, évidemment, ce sont très marginalement des sociétés matrilinéaires ou matrilocales. qui ne sont pas d'ailleurs non plus des sociétés d'égalité, mais qui sont à l'échelle planétaire et à l'échelle historique infinitésimale. Donc on peut pas considérer que le matriarcat est une réalité historique. Et par ailleurs, je crois que l'auditeur confond des choses. C'est-à-dire que le matriarcat, ça voudrait dire qu'il aurait existé dans le monde un système où les femmes ont capté tout le pouvoir et qu'elles l'exercent de manière extrêmement violente contre tous les hommes de leur société. Ce qui, évidemment, à mon avis, et au regard du travail que j'ai mené, n'a jamais existé.
Et ce n'est pas l'objectif.
Non. Et après, bien sûr, personne ne dit que les femmes sont précisément des êtres doux et bienveillants, pacifiques et respectueux par nature. Parce que, précisément, il s'agit d'une socialisation. Si les femmes sont comme ça, c'est parce qu'elles ont été socialisées comme ça et beaucoup d'entre elles ne le sont en réalité pas du tout. Et par ailleurs, moi, je pense très sincèrement que la nature humaine est précisément à l'opposé de cette vision archétypale du féminin et du masculin. La nature humaine, ça doit nous engager à cultiver le meilleur en nous. Et le meilleur en nous, ça veut dire respect, bienveillance, bien évidemment. Et d'ailleurs, je signale que dans le projet politique de la sororité que porte un certain nombre de grandes voix dans ce livre, qui est un projet visant à transformer radicalement le monde, ces projets de sororité mettent au cœur des dispositifs le respect, la bienveillance, la non-violence, la paix, qui, si je ne m'abuse, sont aussi des valeurs cardinales des églises chrétiennes, par exemple, puisque nous sommes ici dans une radio chrétienne.
La sororité, un joli mot qui monte. Une réflexion sur la sororité, Anne-Marie Pelletier ?
Je ne sais pas. Oui, bien sûr, sororité. Mais pour rebondir sur ce que Christelle vient de nous dire, la première réalité à reconnaître et à assurer, c'est effectivement l'égalité, le respect sur la base de l'égalité. Ça me paraît la grande affaire à acquérir. Mais à partir de là, dans un second temps, je dis bien dans un second temps, il m'importe aussi de tenir compte du fait qu'un homme, c'est pas une femme, c'est pas un homme, et que c'est aussi une richesse considérable, et que l'objectif, finalement, de l'humanité, c'est la reconnaissance mutuelle dans cette différence.
Avant d'accueillir Jeanne au 04 72 38 20 23, je voulais vous lire un court message de Vincent, alors un auditeur qui apporte peut-être une nuance par rapport au témoignage d'Étienne, et qui nous dit « Le patriarcat n'avait-il pas la fonction de protéger la femme dans l'idée de protéger la vie et une personne qui nous est chère ?» Christelle Tarot.
Vous êtes effondrée.
Non, je ne suis pas effondrée, parce que j'ai l'habitude, en fait, évidemment, de... Mais encore une fois, ça pose le problème dont nous avons discuté à l'origine. C'est que la différence que vous venez d'évoquer, qui est incontestable, évidemment, en particulier d'un point de vue physiologique, n'a pas vocation à produire des régimes hiérarchiques. Et ça, c'est très important, parce que tous les régimes de force patriarcaux utilisent le fait qu'il y ait des différences, différences qui sont la richesse de notre humanité commune, pour les hiérarchiser. Hiérarchiser de manière très différente. La première hiérarchie, bien sûr, c'est la hiérarchie qui oppose les femmes et les hommes, mais on peut retrouver des hiérarchies dans bien d'autres structures. La question socio-économique, les questions raciales, etc. Et donc cette hiérarchie, elle est extrêmement problématique, parce qu'elle sous-entend évidemment qu'il y a un sexe fort, et s'il y a un sexe fort, ça veut dire qu'il y a un sexe faible, et que les femmes ont besoin de, par exemple, de protection. Mais ne vaudrait-il pas mieux construire une société où les femmes se sentiraient suffisamment en sécurité pour n'avoir pas besoin d'être protégées ? Et donc là, on est dans une toute autre dynamique, évidemment, que celle qui est définie par votre auditeur. Et moi, c'est cette dynamique-là qui m'habite et qui me hante aussi, parce que je ne comprends pas, en fait, comment est-ce qu'on peut continuer à considérer que ces structures hiérarchiques qui font qui sont un désastre, non seulement dans nos sociétés, mais à l'échelle planétaire, qu'on puisse continuer à défendre, en fait, ces modèles hiérarchiques qui sont durablement indexés sur en particulier sur les inégalités entre les femmes et les hommes.
Anne-Marie Pelletier, c'est compliqué parce qu'il y avait de la bienveillance dans le témoignage de notre auditeur.
Oui. Et j'ai envie de dire que écoutons-nous, hommes et femmes, ce que nous faisons peu souvent, hein. Bien sûr.
L'homme qui protège la femme.
L'homme qui protège la femme. J'ai envie de dire la femme qui protège l'homme. Dans la vie des sociétés.
Prenons soin de nous les uns les autres.
Les femmes qui protègent la vie dans des situations de calamiteuses, de violences extrêmes, ce sont elles quand même qui sont là et qui protègent la vie.
Bonjour Jeanne.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Merci de me prendre à l'antenne. Je souhaitais effectivement témoigner, ayant été victime de violences conjugales qui m'ont conduite au divorce, pas par amusement, mais parce que c'était impératif pour me sauver et sauver ma santé et sauver les miens. Je voulais dire que il y a des facteurs exogènes et endogènes, je pense, qu'il faut absolument traiter. D'abord, nous sommes dans une société, ça n'a échappé à personne, dans laquelle on considère qu'il faut consommer, dans laquelle on considère que toute frustration est impossible. Et vous avez des hommes qui n'ont pas été éduqués au sein de leur famille pour surmonter leur frustration et qui considèrent que la résolution de leurs problèmes passe par un comportement violent qui fera comprendre, entre guillemets, quelque chose à leur conjointe, et ce, quels que soient les milieux sociaux professionnels. Ce manque de maturité, cette infantilisation est très souvent décryptée par les psychologues dans le traitement des violences conjugales sur les hommes qui se comportent de cette façon-là. Il y a vraiment un travail de fond à faire, et je voudrais dire aussi que j'ai eu l'immense chance sur le plan socio-économique de pouvoir m'assumer et de pouvoir partir. J'aurais dû d'ailleurs partir après le premier coup, je suis partie après le deuxième. Il vaut mieux partir dès le premier. Mais beaucoup de femmes sont en situation d'assujettissement économique et vivent dans des souffrances considérables parce qu'elles n'ont pas la possibilité de partir. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir entendu.
Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue à l'antenne au 04 72 38 20 23. Christelle Tarot, je me tourne vers vous après ce témoignage, puisque Jeanne a dit beaucoup de choses intéressantes, notamment peut-être aussi sur des explications, en tout cas des pistes sur les effets psychologiques, comme elle a pu aborder, du passé des hommes.
Alors oui, bien sûr, évidemment, là, encore une fois, la réalité humaine est complexe, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'utiliser la notion de continuum, parce que lorsqu'il y a un parcours de violence du côté de l'agresseur comme du côté de la victime, bien sûr, on constate qu'il y a eu avant des épisodes...
Un homme ne se réveille pas le matin en disant « je vais tuer ma femme ».
Ah ben absolument pas. Évidemment, en tout cas pas dans un cadre de féminicide. Mmh. Ça peut arriver dans le cadre d'autres types de crimes, mais dans le cadre d'un féminicide, c'est un projet de contrôle et de coercition qui repose en fait souvent sur des régimes punitifs. Et donc, on voit bien qu'on commence par contrôler la femme dans sa mobilité, l'isoler. On passe en général d'abord par la coercition psychologique. Au passage, ça a été reconnu très tardivement, en fait. Parce que, évidemment, c'est très compliqué de prouver la coercition psychologique quand on ne partage pas le quotidien de la personne. Et même quand on le partage, parfois... Les hommes ont un double discours, c'est-à-dire sont socialement proposent une certaine figure sociale, par exemple à la famille et à la famille extérieure et à la société, et puis dans l'intimité avec les femmes et les enfants se comportent évidemment radicalement différemment. Après, on peut passer bien sûr au coup. Et puis on termine évidemment par le meurtre, mais il y a tout un parcours de violence auquel d'ailleurs il faut ajouter parfois des violences sexuelles, et Dieu sait qu'on a travaillé longtemps important, par exemple, pour que le viol conjugal soit reconnu dans le droit français. Donc oui, on ne produit pas un féminicide, comme ça, de manière spontanée. C'est un acte qui se prépare, effectivement. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que les hommes violents n'ont pas subi eux-mêmes des violences, bien évidemment.
Anne-Marie Pelletier, je voudrais qu'on s'arrête sur les mots. Parce qu'on se rend bien compte, en particulier dans l'Église catholique, qu'on a du mal à nommer les choses qui touchent aux violences faites aux femmes, et même peut-être aux femmes en général. On a vu ces derniers jours des évêques utiliser des circonvolutions pour parler d'agression sexuelle, de baiser sur la bouche d'une enfant. Pourquoi on n'arrive pas à nommer les choses ?
On euphémise.
Oui.
On passe son temps à euphémiser dans le discours officiel, effectivement. Parce que, tout simplement, je crois que, peut-être de bonne foi d'ailleurs, tellement les choses sont intériorisées, ces hommes n'arrivent pas à percevoir ce qu'est l'expérience des femmes. Enfin, moi, j'ai été révulsée lorsqu'il y a quelques années, lors d'une sombre histoire au Brésil, un évêque a expliqué, alors qu'il est question de l'avortement d'une petite fille qui avait été abusée, il a expliqué péremptoirement que un avortement, c'était bien plus grave qu'un viol.
Ouais.
Quel scandale.
On en est là. Christelle Tarot, sur les mots, là aussi, on a du mal, en dehors de la sphère de l'Église, hein, dans le champ général, à dire les choses. Moi, je me rappelle quelque chose qui m'avait beaucoup choquée, c'était il y a quelques années, au moment de l'affaire DSK, un journaliste célèbre avait parlé de troussage de domestiques.
Oui, mais c'est une manière de banaliser, d'euphémiser les violences faites aux femmes. On en a bien l'habitude. C'est pour ça qu'on a armé de manière très documentée des nouveaux mots, des nouvelles expressions, parce que moi, je crois que tant que le crime n'est pas nommé correctement, il n'existe pas. Et donc, on doit s'interdire absolument de troussage de domestique, n'en parlons pas, c'est absolument horrible et affreux, mais même de parler de crimes passionnels, de crimes d'honneur, c'est problématique parce que il faut rappeler avec force qu'il n'y a aucun honneur, aucune passion, aucun amour à tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et donc on a besoin effectivement de produire un électrochoc dans la société pour que ces mots ne soient plus employés. Et cet électrochoc doit être armé, et c'est pourquoi Féminicide, voilà, d'une histoire mondiale existe.
Aux éditions du CERF, merci beaucoup,
non,
Christelle.
Non, pas aux éditions du CERF.
Non, à la Découverte, voilà, merci Christelle Tarot. Un jour peut-être, le CERF se penchera sur cette question. En tout cas, vous, Anne-Marie Pelletier, au CERF, vous avez publié L'Église des hommes avec des femmes, et chez Salvatore, L'Église et le féminin. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux d'être venues échanger sur ce micro, sur cette question des violences faites aux femmes, d'où ça vient et pourquoi le patriarcat. Merci beaucoup.
Merci Stéphanie pour cette émission. Dans un instant, on va continuer, on va agir, hein, comme c'est la tradition dont je pense. Donc j'agis, on va vous mettre en avant une très belle association qui s'appelle En Parler, représentée par notre invité qui va nous rejoindre dans un instant, avec toujours vos témoignages, hein, si vous êtes concerné de près ou de loin par des violences. Appelez-nous au 04 72 38 20 23, venez témoigner en direct. Vous pouvez également nous laisser un mail à direct@rcf.fr. A tout de suite.